En séance. Une émission de la rédaction de Canal Académie.
Le 14 janvier 2008, Jacques-Henri Robert, directeur de l'Institut de criminologie, a prononcé une communication devant les membres de l'Académie des sciences morales et politiques. Elle s'intitulait « Criminologie et droit pénal ». Retrouvons-le immédiatement en petite salle des séances.
Monsieur le Président, Monsieur le Vice-président, Monsieur le Secrétaire perpétuel, Monsieur le Chancelier, Mesdames et Messieurs les académiciens, dans les bois où j'ai cueilli des champignons ne figuraient pas ceux de Broglie. Je tiens à respecter la propriété privée des ducs et des princes de Breuil. Au commencement, était, comme le dit Monsieur le Président dans l'introduction de son introduction au droit, la tribu. Et la tribu sépara le bien et le mal. Le droit fixa cette distinction et punit ceux qui faisaient le mal. Enfin, la criminologie vint, après un ou deux ou trois millénaires, et décida de faire de ceux qui violaient les lois l'objet de son étude. Il semble donc que le droit et la criminologie ont tout fait, tout pour s'entendre, ne serait-ce que parce que le droit a fourni à la criminologie son objet, sa nourriture, son pain. Et en effet, on trouve beaucoup de maximes dans les livres de droit et de criminologie sur les raisons que ces deux disciplines ont de s'entendre. On dit c'est un mariage au pire de raisons, mais il est indissoluble par la nature des choses. On dit encore le droit sans la criminologie n'a pas d'objet, mais la criminologie sans le droit n'a pas de limite. Eh bien, malgré ces pronostics très optimistes sur un mariage heureux, les rapports entre les deux conjoints vont de la tiédeur à l'exécration. Au moins en France, et c'est un phénomène très étrange. Il y a une hypothèse que j'écarte tout de suite parce qu'elle est insultante pour l'honneur universitaire, c'est la divergence politique. Il est vrai que dans une majorité raisonnable, les juristes sont d'un certain bord et que les criminologues, dans leur quasi-unanimité, sont de l'autre. Ça n'est pas non plus une querelle de chapelle comme il en existe dans les disciplines étroites comme la philosophie ou la théorie du droit. Parce que si le droit et la criminologie ont bien le même objet, ils le prennent par des angles vraiment très différents. On pourrait comparer cela au rapport qui existe entre l'astronomie qui décrit la course des astres et l'astrophysique qui décrit leur composition. Si donc il y a une telle mésentente entre les deux corps de spécialistes, de savants, c'est qu'il faut aller les chercher dans les racines. Dans les définitions, c'est peut-être précoce en ce qui concerne le droit, puisque vous allez consacrer toute votre année à savoir ce qu'est le droit sous la présidence d'un spécialiste. Donc on va dire pour le moment, en gros, que c'est l'art de dire les règles de la société politique. Vous affinerez le reste de l'année cette définition. La criminologie, bien c'est la description des criminels et la façon de les traiter. C'est une des multiples définitions, car la définition de la criminologie, elle est mobile et déformable. Cette science même n'a pas reçu son nom immédiatement dès sa naissance. Un point d'accord entre tout le monde, c'est que Lombroso a fondé la criminologie. C'est une convention plus qu'une vérité. Mais il ne l'avait pas nommé comme cela en 1867, il l'avait appelé ethnologie criminelle. Son quasi-contemporain l'avait appelé sociologie criminelle. Et c'est un autre Italien, Garofalo, qui l'a appelé criminologie en italien, à ceci près que un de nos grands spécialistes de la criminologie, M. Gassin, prétend que l'auteur de ce nom était un Français, et il s'appelait Topinard. Son nom est délicieux et pourtant, il semble avoir été oublié. Depuis qu'elle est née, mettons en 1876, la définition de la criminologie est passée par de multiples crises. C'est un objet mobile, changeant, et tellement mobile et tellement changeant dans son contenu que dans une édition d'un dictionnaire sur la théorie du droit, paru en 1993, l'auteur de l'entrée « criminologie » recommandait d'abandonner ce mot. Il est donc très aventureux de définir la criminologie. En revanche, il est assez facile de décrire les points de contact entre le droit et la criminologie. C'est l'objet de la conférence que vous m'avez proposée. C'est un phénomène qui est plein de bouillonnement, de frottement, de convection, d'étincelles. Et ils ont été plusieurs fois décrits. On trouve dans les revues des articles qui portent précisément le titre « Criminologie et droit pénal ». Si on n'arrive pas très bien à définir la criminologie, on arrive au moins à définir ce qui est sa frontière mobile avec le droit. C'est un sujet, je viens de vous le dire, fort envenimé. Mais de même qu'il y a des tempêtes dans des verres d'eau, de même il y a des tempêtes dans les salles des périodiques des bibliothèques publiques. Et celle-ci pourrait bien en être une aussi. Après avoir lu ce qu'il y a dans ces revues et dans ces traités, je me suis tourné vers ce qui se passe en dehors de ces bibliothèques et j'ai cherché à savoir si la houle se propageait jusque dans les institutions, institutions universitaires et institutions judiciaires. Je commence donc par ce qui se passe dans les revues et qui paraît assez envenimé. Ce sont les rapports conceptuels entre le droit et la criminologie. On pourrait dire que c'est une dévoration réciproque entre les deux combattants. Le droit pénal est très ancien, sa durée se mesure en millénaires et la criminologie est très récente. Le droit l'a vu arriver donc après qu'il avait lui-même plus de 2000 ans et la jeune prétentieuse, quand elle est arrivée dans le champ du droit pénal, a été dès l'origine tout à fait désinvolte et irrespectueuse. Ce qui m'amène à vous parler de la façon dont le droit vit arriver la criminologie et dont ensuite la criminologie, dans un regard en retour, lui manqua de respect. Commençons donc par le droit vu par la criminologie. Le droit existait avant la criminologie et le droit pénal savait trouver ses sources en dehors d'elle, par hypothèse. Et il est intéressant, pour savoir quelle est la place de la criminologie dans le droit, de savoir où le droit pénal s'alimentait avant qu'elle ne naisse. On amuse tous les collégiens de France avec la célèbre phrase « Avocat passé au déluge ». Et dans votre compagnie, on sait bien que ça n'est pas là une plaisanterie en l'air, mais le reflet de ce qui était écrit dans les mémoires, les traités de droit en général, les avocats, les écrivains juridiques recherchaient les sources des règles de droit dans les Écritures saintes, dans le droit romain, c'est-à-dire le droit de Justinien, dans les sentences des pères de l'Église, dans les coutumes du royaume, dans la nature des choses. Et si une solution était conforme à tout cet ensemble, on pouvait dire qu'elle était certainement très bonne. Le droit pénal, il est vrai, du XVIIe siècle, on n'en connaît pas le contenu par les jugements ni par les mémoires, parce que l'ordonnance de 1670 interdisait le recours à l'avocat. Mais on a des traités très précieux sur le sujet. Et on y trouve des recettes, un savoir très raffiné. Raffiné et en provenance des savoirs ecclésiastiques. Il était évident pour les gens de cette époque qu'entre l'infraction et le péché, il y avait des rapports très étroits. Et il tenait, les juristes, des confesseurs, un grand nombre de maximes, de subtilités, de distinctions. Il savait les différents degrés de l'intention plus ou moins méchante, comme on dit encore dans le Confiteor, j'ai péché par pensée, par parole, par action et par omission. L'Église savait que certains péchés étaient rendus nécessaires par l'extrémité de la misère. Elle recommandait aussi l'Église que la peine serve à amender le pécheur. Et toutes ces maximes se retrouvent dans le droit laïque de l'Ancien Régime. Avec les Lumières, on aurait pu penser que le droit deviendrait plus matérialiste, plus criminologique, on dirait aujourd'hui. Et c'est vrai que Diderot avait quelques idées sur le mécanisme par lequel l'homme agissait malgré lui, malgré son libre arbitre. De la Mettrie avait écrit un livre en 1747 qui s'intitulait « L'homme-machine ». Et les médecins ont été, du XVIIIe siècle, ont été convaincu assez facilement par ce matérialisme implicite des Lumières. Et ils ont éclairé, si l'on peut dire, les différentes assemblées de la Révolution, du Consulat et de l'Empire. Parmi eux, on remarque un certain Ignace Joseph Guillotin. Un autre s'appelait François-Emmanuel Faudéré, et il affirma en 1799 que la médecine devait promouvoir l'application des principes physico-médicaux à l'administration de la justice. Votre savante assemblée elle-même comptait un certain Villermé, et il composa en 1832 un rapport qui consignait les résultats d'une enquête qu'il avait faite sur les fléaux sociaux dont étaient affligés les criminels de son époque. Ces propos ont déjà retenti dans cette salle il y a 150 ans. La criminologie aurait donc pu naître sous la Révolution. Mais la Révolution portait en son sein un autre enfant qui tua la criminologie. Ce sont les principes inscrits dans la Déclaration des droits de l'homme. L'égalité, la liberté, la légalité des délits et des peines. Le citoyen, vu par la Révolution, est un homme raisonnable et calculateur, un homme abstrait. Et le signe bien connu de cette abstraction, c'est la fixité des peines qui n'était pas marquée par un maximum ni un minimum dans les codes de 1791 et de l'an 4. On ne veut pas savoir pourquoi il a péché, pourquoi pas il a péché justement, pourquoi il a commis l'infraction. Il était libre, il savait la peine, il a accepté, la peine n'est que l'exécution d'un marché. Ce qu'il y a derrière dans sa psychologie, on ne veut pas le savoir. Ainsi, on pourrait dire, mais c'est un anachronisme, que la loi française sous la Révolution était anticriminologique. Elle interdisait aux juges de faire de la criminologie. Elle était moins criminologique que ne l'avait été le droit de l'Ancien Régime. Et c'est ce qui a fait que notre droit pénal au XIXe siècle est tombé dans une sécheresse très grande qui a fait dire à un Allemand, von Liszt, à la fin du XIXe siècle, « Le droit pénal français n'existe pas !» Cette épine reste dans le cœur de tous les pénalistes français. La criminologie vint. Il est de convention de dire que c'est en 1876. Ça n'est qu'une convention. Ça aurait dû être une nouvelle chance pour le droit pénal. On dit que Lombroso a fondé la criminologie, c'est un peu exagéré, car, comme je vous le disais il y a un instant, ses prédécesseurs du XVIIIe siècle y avaient déjà songé. S'il a fâché, dès l'origine, les juristes, et qu'il a affirmé que, contrairement à l'utilitarisme révolutionnaire, le délinquant était voué au déterminisme et qu'il n'usait pas de son libre arbitre. Et tout le droit pénal du XIXe siècle, qui avait été fondé sur cette idée que la volonté libre avait accepté d'avance la peine, cette doctrine s'effondrait, selon Lombroso. Ça fâchait non seulement les utilitaristes, mais aussi tous les auteurs de traités du XIXe siècle qui, plus ou moins clandestinement, continuaient d'écrire comme Muillard de Vuglans au XVIIIe siècle et qui assimilaient assez volontiers l'infraction au péché. Les choses ne se sont pas améliorées avec Ferry, qui lui aussi, mais d'un point de vue sociologique, Lombroso étant un médecin, avec Ferry qui, d'un point de vue sociologique, disait que l'homme est déterminé non pas par sa constitution, mais par son environnement. Les juristes ne pouvaient donc pas accueillir très favorablement cette nouvelle criminologie aussi insolente à leur endroit. Néanmoins, entre 1880 et nos jours, beaucoup de compromis ont été proposés, et en particulier par les juristes, plus que par les criminologues. Il y a eu un traité de paix qui a été avancé, dont les trois articles seraient les suivants. Article 1er, le droit dit les normes et ne fait que cela. La criminologie observe les faits et suggère le contenu des normes. Article 2, on oublie la querelle entre le déterminisme et le libre arbitre. Ça n'est pas scientifique, ni le droit, ni la criminologie ne peuvent le trancher. Article 3, on n'établit pas entre la criminologie et le droit de hiérarchie. Il n'y en a pas un qui est l'auxiliaire de l'autre, ils se nourrissent l'un l'autre. Ce traité de paix qui a été proposé par Tarde, après lui par Ancel et puis Pinatel, n'a pas été complètement infructueux. On a ressuscité une vieille formule qui s'appelait la politique criminelle, qui, selon Feuerbach, était la sagesse de l'État légiférant. Les criminologues apportaient leur science de la psychologie, leur science de la sociologie, pour permettre aux juristes de dire ce que c'est qu'un délinquant. Cette politique de compromis a eu des succès même dans le droit positif. Et les deux grands monuments, ce sont les deux textes relatifs à la délinquance des mineurs. La loi du 22 juillet 1912 et l'ordonnance du 2 février 1945. Dans ce texte, et en particulier dans le deuxième, le droit opère une retraite sur ses frontières. Il renonce à un principe pour lui sacré, la légalité des peines. Non pas la légalité des délits, mais celle des peines, puisque les jeunes sont soumis à des mesures de protection, d'assistance, de surveillance et d'éducation dont la durée est indéterminé, le contenu très plastique. Ils ne sont plus dits, dans l'ordonnance, coupables, mais ce texte utilise une formule étrange pour dire leur rapport au délit. La prévention est établie à leur égard. Ces monuments juridico-criminologiques n'ont pas auprès de tous les juristes une excellente réputation, et auprès des hommes politiques, leur réputation est encore plus médiocre. Et beaucoup de juristes, mais pas tous, pensent que la criminologie est vraiment très encombrante et qu'elle ne doit rester qu'une science auxiliaire, une servante, une cendrillon. Elle est utile quand elle sert à découvrir les délinquants grâce à ce qu'on appelle le profilage et plus correctement l'analyse criminelle. Elle est utile quand elle inspire l'action des travailleurs sociaux dans les prisons. Et cette opinion qui minimalise le rôle de la criminologie est bien exprimée par un propos que Pinatel rapportait qu'il avait entendu dans la bouche d'un magistrat que malheureusement il ne nomme pas. Si nous devons nous incliner devant les savants, c'est quand nous ne pouvons pas faire autrement. Et cette position ancillaire que le droit assigne à la criminologie est évidemment très désagréable pour les criminologues. Et les criminologues, de leur côté, n'ont pas aimé beaucoup le traité qu'on leur proposait. Et c'est ce qui m'amène à vous parler du droit, vu cette fois-ci par la criminologie. Lombroso était médecin, Ferry était sociologue, je le répète, et ils avaient rédigé leurs ouvrages en réaction contre le droit de leur époque, que l'on qualifie aujourd'hui de néoclassique. Cette méchanceté initiale aurait pu n'être qu'une pique entre des castes de savants. Et pourtant, c'était beaucoup plus grave que ça, et cela tient à une difficulté essentielle dans la définition muante, je l'accorde, de la criminologie. La criminologie s'occupe du crime et des criminels. C'est au moins le minimum. Mais qu'est-ce que le crime ? Et là surgit la difficulté. Le crime, c'est ce que les juristes désignent comme tel. Or, voilà une proposition que les criminologues ne peuvent pas accepter, même les plus conciliants. Car, disent-ils, le droit n'est pas une science. Ça se démontrera tout au long de votre année. Et en face de cette proposition, le droit n'est pas une science, eh bien, l'attitude des criminologues varie. Commençons par cette affirmation, le droit n'est pas une science. Ça n'est pas une science de l'observation des faits sociaux. C'est vrai, la sociologie criminelle, dont votre président est un ardent défenseur, est toute jeune, encore plus jeune que la criminologie. Mais si le droit ne peut pas observer les faits sociaux, sur quoi se fonde-t-il depuis la Révolution ? On comprend bien qu'avant la Révolution, il avait ses sources, mais avec la Révolution, il est privé de la théologie, il est privé des pères de l'Église, il est même privé du droit naturel. Tout ce qu'il peut faire, le droit, c'est dire ce que le pouvoir, le prince, lui dit de dire. Il met en forme la volonté politique en exprimant dans les lois les volontés du peuple souverain, ou, s'il s'agit d'un juge, en interprétant dans les jugements ce que le souverain a voulu dire De même, les notaires et les fonctionnaires le font dans leurs actes et leurs arrêtés. Le droit, donc, aujourd'hui, se réduit à un langage, une manière de dire dans un style précis, c'est vrai, condensé, non équivoque, une volonté qui lui est dictée de l'extérieur. Mais il a tout de même un pouvoir propre sur le contenu des normes. Il le dit avec des mots et des concepts qu'il a hérités du passé et qui sont souvent fort anciens, et de même qu'une langue imprime un certain contenu aux idées qu'elle exprime, de même, le droit imprime à la volonté du souverain un certain contenu. Beaucoup d'abstractions qui sont coupées des réalités sociales ont pourtant, dans le monde concret, économique, social, des impacts importants. En droit civil, on parle souvent des opérations triangulaires, comme la cession de créances. Ce sont des opérations qui peuvent porter sur des millions d'euros. Eh bien, une interprétation d'un mot dans un des articles 1200 du Code civil détermine le sort de ces millions d'euros qui vont dans une poche ou qui vont dans un autre endroit pénal, car c'est mon sujet. Certaines matières sont régies par de pures abstractions. Considérons un point aussi important que la distinction entre, d'une part, la récidive et la réitération. Eh bien, la distinction entre ces deux notions, qui a des importances pratiques considérables pour le condamné, repose sur une notion très abstraite, l'action publique. Selon qu'elle est éteinte ou pas éteinte, eh bien, le sort du malheureux délinquant variera. Ainsi, certains criminologues disent juger, c'est faire des mots croisés judiciaires. C'est un pur jeu de l'esprit, ça n'est rien d'autre. Mais il reste que, malgré cette technicité qui n'est que secondaire par rapport à son contenu, le droit ne peut pas être considéré comme une science d'observation des faits sociaux. Comment les criminologues concluent-ils après cette observation? Eh bien, il y a deux écoles. Certains disent, eh bien, on va se passer des juristes et on va se donner à nous-mêmes la définition du crime. Et d'autres disent, eh bien, il y a plus simple encore, c'est de faire du droit l'objet de notre étude. Commençons par la définition autonome de la criminologie selon les criminologues. Les modernes font, avec les sciences de l'observation, mais aussi l'histoire et aussi l'ethnologie, plus ou moins inventée, les criminologues donc font ce que les anciens cherchaient à faire. Ils cherchent à énumérer des règles générales qui puissent être observées partout dans le temps et partout dans l'espace. Et ils arrivent à conclure gravement que partout dans le temps et partout dans l'espace, trois valeurs sont protégées. La vie d'autrui, à condition qu'autrui ne soit pas toujours défini comme n'importe quel homme, les biens d'autrui et les institutions de la tribu, de la cité ou de l'État. Ce n'est pas vraiment une trouvaille, car c'est le plan du code pénal. Mais ce qu'il y a d'intéressant dans cette quasi-platitude, c'est la classification des personnes qui violent ces trois valeurs principales. Et les criminologues, de tendance psychologique, aiment bien faire des classifications. Oui, l'un d'eux, italien, Nuvolone, dit par exemple, il y a deux sortes d'infracteurs. Il y a ceux qui n'appartiennent pas à la moyenne du genre humain, mais à côté des criminels, cette catégorie comprend les saints, les martyrs et les prophètes. Ce n'est pas une catégorie très utile. Une deuxième catégorie de criminels, ce seraient des gens qui appartiennent à la moyenne, mais qu'une tare particulière rend criminel. Cette école criminologique se confond avec celle dont j'ai parlé tout à l'heure et dont on dit qu'elle est prête au compromis. Elle est en effet un auxiliaire égal, un comparse égal du droit. C'est elle qui permet aux autorités judiciaires d'établir des processus de détection des criminels, des prédictions de criminalité dans tel et tel endroit, dans telle et telle période. C'est elle qui permet de construire des traitements appropriés dans l'administration pénitentiaire. Mais c'est précisément cette attitude de collaboration qui irrite une autre partie très importante des criminologues. Cette autre partie dit, si la criminologie a pour finalité de servir le pouvoir politique, ce n'est pas une science. Le mot « science » désigne une discipline dont la seule ambition est d'observer le réel, en laissant à d'autres, le technicien, d'en déduire telle règle de conduite ou de gouvernement qui leur plaira. Et pour définir le crime de manière scientifique, les conjectures historico-ethnologiques ne sont pas les plus sûres. Il suffit de prendre les juristes au mot et de dire « qu'est-ce qu'un crime ?» C'est quelque chose dont le droit dit que c'est un crime. Mais alors, pour définir le crime, il ne faut pas définir seulement le comportement du criminel, mais le comportement du législateur. Car pour faire un crime, il faut être deux. Un qui dit la règle et un autre qui la viole. Et c'est ainsi que la criminologie moderne inclut dans son objet non seulement le criminel, mais le faiseur de loi, le juriste. C'est évidemment une situation très désagréable pour les juristes. Elle n'est pas non plus en danger pour la criminologie elle-même, parce que, ainsi conçu, c'est plus de la criminologie, c'est de la sociologie pénale. Mais si c'est une sociologie pénale, c'est une sociologie comme une autre sociologie, la sociologie du sport, la sociologie de la religion, la sociologie des fonctionnaires. Pourquoi la sociologie pénale aurait-elle un statut différent de tout cela? Pourquoi serait-elle au-dessus des autres sociologies? À tel point que, en 1993, après le 11e congrès international de criminologie, un auteur, dans le dictionnaire de théorie et de sociologie du droit dont je parlais tout à l'heure, a dit que le mot « criminologie » devait être abandonné, car il est trop marqué par sa signification traditionnelle de catégorie comportementale spécifique. La transformation de la criminologie en sociologie pénale peut avoir des inconvénients très graves, car dans le couple qui fabrique le crime, c'est-à-dire le législateur et l'infracteur, le plus criminel, aux yeux des criminologues, n'est pas toujours celui qu'on pense. Et ça peut être le législateur lui-même, oppresseur. Et il est arrivé. Comme le raconte David Lodge dans son roman « Un si petit monde », mais c'est vrai, il est arrivé que des professeurs de criminologie soient condamnés en Italie pour avoir été des complices des brigades rouges. Pour éviter de vous laisser sur cette pénible impression, je vais aborder les rapports institutionnels entre le droit et la criminologie, et ce sera ma deuxième et dernière partie. Les personnes qui souffrent des yeux vont chez un ophtalmologue. Ceux qui ont des rhumatismes vont chez un rhumatologue. Ceux qui ont des pulsions criminelles ne vont pas chez un criminologue. Qu'est-ce donc qu'un criminologue? Où les trouve-t-on? Eh bien, on les trouve dans l'enseignement et la recherche, d'un côté, et aussi dans la vie active. Dans l'enseignement et la recherche, c'est là qu'il y a le plus de criminologues. La sociologie et la criminologie sont nées à peu près en même temps. Et la sociologie a merveilleusement réussi. On fait des licences, des maîtrises et des doctorats de sociologie. Et en France, au moins, on n'en fait aucun de criminologie. Dans les diplômes d'État des universités françaises, la criminologie occupe un semestre sur les quatre années de la maîtrise, et c'est tout. Et ce malheureux semestre est sanctionné par un examen oral dont on sait comment les étudiants les préparent. En France, les cours de criminologie qui sont importants, substantiels, utiles, sont donc dispensés dans des organes des universités qui s'appellent instituts. Tantôt instituts de criminologie, comme celui de Paris, tantôt instituts de sciences pénales, tantôt instituts des deux à la fois. Mais ils ne délivrent que des diplômes d'université et pas des diplômes d'État. Il se trouve qu'une fille de magistrat, qui s'appelle Mademoiselle Petit, a dressé l'inventaire de tous ces instituts et des programmes d'enseignement que l'on y trouve. Presque partout, elle a découvert que les directeurs en étaient des professeurs de droit. Assez peu nombreux sont ceux qui ravalent la criminologie au rang de cendrillon, de science auxiliaire. parfois même de simples ornements, dans les copies de droit pénal ou de culture générale. Beaucoup plus nombreux sont les professeurs, j'insiste, de droit, comme à Paris, des professeurs de droit qui adhèrent au compromis dont on parlait plus haut. Le droit et la criminologie sont égaux en dignité, se donnent la main et s'enrichissent mutuellement. La criminologie ne rougit pas de servir le pouvoir, pas plus qu'un terbicien ne rougirait de faire tourner les moteurs à explosion ou à vapeur. En conséquence, dans ces instituts, les personnes qui dispensent les cours de criminologie et d'autres disciplines comme la psychologie ou la criminalistique sont des praticiens. Ils sont choisis parmi les magistrats, les médecins, les avocats, les policiers. Et tous ces professionnels, parce qu'ils ont une profession et qu'ils en vivent, sont convaincus que la criminologie est une science d'application, ce qui n'interdit pas aussi la spéculation, mais la spéculation sans l'application serait vaine. Le même chercheur a observé que la présence d'un sociologue dans une chaire de criminologie est un phénomène rarissime, ce qui est le signe de la brouille dont je vous parlais en commençant. Certains diplômes d'université sont construits de manière très séduisante, surtout lorsque ils sont conçus par un universitaire juriste et un universitaire médecin, et surtout lorsque les cours sont construits dans la contemplation les uns des autres, chaque enseignant sachant ce que ses collègues disent. Alors, où sont donc les autres criminologues? Eh bien, ils sont concentrés dans une section du CNRS, la section 36, qui se nomme « Sociologie-normes et règles ». On en a biffé le mot « droit », ce qui, évidemment, vous indique à quelle partie appartiennent les personnes qui ont choisi ce texte. Et le mot « sociologie » est avant « normes et règles » qui lâche d'un voile pudique l'hypothèse que le droit pourrait exister. À l'étranger, il existe des diplômes, on ne peut pas dire d'État, puisque tous les États étrangers, en particulier les États-Unis, n'ont pas notre organisation universitaire, mais enfin, des vrais diplômes, des maîtrises, des licences et des doctorats de criminologie. Et les cours de criminologie, ils sont donnés par des personnages qui portent le nom de professeurs de criminologie, comme il existe des professeurs de médecine, de philosophie et de droit. C'est un titre qui, chez nous, n'existe pas. C'est un personnel nombreux, très bien payé aux États-Unis, qui produit un nombre très élevé de publications, ce qui fait que la criminologie s'écrit plutôt en anglais. Et les programmes sont en plus grand, en plus systématique, ce que l'on fait plus modestement dans les instituts de criminologie français. Les juristes et les criminologues, étant plus riches, sont évidemment plus enclins à la bonne entente, car, comme on dit dans le pays d'où je citais par votre président, quand il n'y a plus rien dans le râtelier, les chevaux se battent. Ça devrait donc être un milieu plus productif, plus utile à la société, mais ça n'est pas toujours le cas. Il existe en effet certaines publications belges, en particulier la revue de l'Université de Bruxelles, qui en 1984 a consacré un numéro entier intitulé « Punir mon beau souci », où il est dit à peu près à toutes les pages qu'il faut abolir la justice pénale comme institution bourgeoise et oppressive. Que deviennent dans ces conditions les étudiants? Et ça nous amène à parler enfin des criminologues dans la vie pratique. La profession de criminologue n'existe pas. Pas même à l'étranger, où il existe pourtant des universités et des facultés de criminologie. Pour gagner leur vie, pour exercer leur talent de criminologue, les étudiants diplômés doivent s'insérer dans un métier. Les moins audacieux et les plus chanceux retournent dans le sein qui les a vus naître, l'université, mais c'est un espace très exigu, de peu de débouchés. Les autres, eh bien, ils appliquent leur savoir dans des milieux judiciaires. Ils sont policiers, magistrats, avocats, directeurs de prison. Aux États-Unis, ils ont un espoir supplémentaire qui est de devenir expert judiciaire. Et s'ils ont assez de commissions, eh bien, ils peuvent en faire leur métier et gagner ainsi leur vie. Le personnage américain est connu par les séries télévisées comme un profiler, celui qui dresse un portrait robot psychologique, le mot correct en français est analyse criminologique. Là, le métier de criminologue, pourtant, devrait avoir, dans un avenir très prochain, une utilité considérable, car plusieurs lois ont réclamé des criminologues qu'ils leur fassent des pronostics, des diagnostics d'individus. Les deux lois du 12 décembre 2005 et du 10 mai 2007 sont dans ce sens. Et le projet de loi en discussion qui est relatif à la rétention de sûreté demande aux experts de dire si oui ou non telle personne est tellement dangereuse qu'elle mérite d'être enfermée dans un centre de rétention pour sûreté pour un an indéfiniment renouvelable, peut-être jusqu'à la tombe. Eh bien, cet espoir de métier pour les experts criminologues est une pomme de discorde considérable. En effet, les scientifiques, qui en cela sont plus modestes que Lombroso et Ferry, disent que on ne peut pas diagnostiquer la dangerosité comme on diagnostique la tuberculose ou le sida. Tout ce qu'on peut dire, c'est qu'il y a des probabilités, grandes ou faibles, mais qui ne se chiffrent pas par 100%, que tel individu, ayant fini sa peine, récidive. Cette question du diagnostic est cruciale pour le couple dont on sait qu'il est indissoluble du droit et de la criminologie. Mais cette fois-ci, c'est peut-être la criminologie qui aurait des reproches à faire au droit. Car si le diagnostic de criminologie ne peut formuler au mieux qu'un soupçon, cela veut dire qu'on va emprisonner des gens dont on n'est pas sûr qu'ils méritent de l'être. Et c'est le criminologue qui retourne alors au juriste. Est-ce que vous n'avez pas établi en 1789 le principe de la légalité des peines ? Dans le couple, ce n'est pas toujours le criminologue qui a tort, parole de juriste. Merci, Monsieur le Président.
Vous venez d'entendre Jacques-Henri Robert, directeur de l'Institut de criminologie, prononcer une communication intitulée « Criminologie et droit pénal ». C'était le 14 janvier 2008 à l'Académie des sciences morales et politiques. Retrouvez l'ensemble des séances de l'Académie des sciences morales et politiques sur Canal Académie en téléchargeant nos émissions en séance.